Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'engagement associatif est-il menacé par le désengagement de l'État ? Décembre est un mois pas comme les autres pour les associations qui œuvrent dans le domaine du social. C'est la période de l'année où elles enregistrent le plus haut niveau de dons, jusqu'à la moitié des contributions annuelles pour certaines d'entre elles. Or, en cette fin 2018, c'est l'inquiétude qui domine dans leur rang. La crise des Gilets jaunes vient conclure et perturber une année qui aura vu leurs ressources diminuer, conséquence plus ou moins directe de la hausse de la CSG pour les retraités, de la diminution du nombre d'emplois aidés et de la suppression de l'ISF remplacée par l'impôt sur la fortune immobilière. C'est dans ce contexte de difficultés budgétaires que le gouvernement a présenté fin novembre un plan d'action pour la vie associative. Alors on pourrait en résumer la philosophie en une formule, aider les associations à faire mieux avec moins, par exemple en allégeant leurs charges sociales et administratives ou en les aidant à mutualiser leurs moyens. L'autre grand axe de ce plan vise à encourager l'engagement individuel, déjà important dans notre pays, 13 millions de bénévoles. Alors s'agit-il de compenser par cette mobilisation la baisse des dotations allouées aux associations? L'engagement associatif est-il menacé par le désengagement de l'État? Eh bien, c'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce soir en compagnie de trois invités, à commencer par vous, Gabriel Attal. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous y êtes en charge notamment des sujets liés à la vie associative. Et c'est vous qui avez présenté le 29 novembre dernier ce plan d'action pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d'une société de l'engagement. Ça, c'est l'intitulé que vous avez directement repris d'un rapport qui vous avait été remis, qui avait été commandé d'ailleurs, au mouvement associatif dont le président est parmi nous ce soir. Il s'agit de Philippe Jachan. Bonsoir.
Bonsoir.
Le mouvement associatif qui rassemble plus de 600 000 associations, ce qui représente environ une association française sur deux. Et vous avez donc publié en mai dernier ce rapport. Je ne vais pas redire son titre, mais c'est... rapport consacré à la vie associative. Et puis troisième invité, Véronique Fayet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente du Secours catholique Caritas France, qui compte 70 000 bénévoles, 1000 salariés. Et je précise que le mois dernier, comme chaque année, vous avez remis votre rapport sur l'état de la pauvreté en France. Véronique Fayet, absolument, je disais que le mois de décembre, c'est un mois assez important, voire très important pour les associations. C'est celui où les gens donnent le plus. Aujourd'hui, on est le 18 décembre. Est-ce que vous pouvez dire que vous, au Secours catholique, vous allez avoir un mois de décembre qui sera à peu près conforme à ce qui se passe d'habitude en termes de dons ? Ou bien c'est encore trop tôt pour le dire ?
Alors c'est un petit peu tôt pour le dire parce que beaucoup de choses se passent quelquefois le dernier jour du mois de décembre ou l'avant-dernier jour. D'abord je voudrais remercier les donateurs fidèles parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore à nos côtés, qui sont généreux et il faut vraiment les remercier de leur fidélité. Après effectivement il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Alors il y a eu tous les petits revenus puisque traditionnellement le Secours catholique a beaucoup de petits donateurs âgés, retraités, qui nous écrivent en disant augmentation de la CSG, difficultés de mes enfants, de mes petits-enfants, donc je ne peux plus vous envoyer de chèque, donc ça pèse. Il y a eu aussi le prélèvement à la source qui a causé beaucoup d'inquiétudes, les gens ne comprenaient pas bien, le gouvernement a fait des annonces là, pour les
qui
personnes...
Qui n'est pas encore en vigueur, il faut rappeler, c'est à partir du mois de janvier, mais ça peut susciter
pour ceux qui bénéficient d'exonération fiscale, donc ils se demandaient s'il fallait faire l'avance, donc tout ça, ça a créé de l'inquiétude. Et puis il y a eu l'ISF qui a été quand même un très très mauvais coup puisque nous avons... une fondation qui s'appelle la Fondation Caritas France, eh bien, nous sommes passés de 24 millions de collectes à sans doute 12-13, donc quasiment divisé par deux. Donc ça, c'est un mauvais coup pour la Fondation, mais la Fondation, elle redistribue à des dizaines de petites associations, donc ce sont des petites associations qui, au bout de la chaîne, ne seront pas aidées comme elles l'étaient auparavant.
Philippe Jachan, donc, vous, président du mouvement associatif qui regroupe 600 000 associations, est-ce que vous partagez le diagnostic de Véronique Fayet ?
Oui, absolument. On le partage d'autant plus. Enfin, ça fait même depuis plus d'une année que nous communiquons et que nous alertons sur cette situation. Aujourd'hui, vous avez parlé des emplois aidés, c'est 1,6 milliard d'euros à peu près, hein, qui de moins en moyen pour le monde associatif. France Générosité chiffre à une baisse de 54% des dons liés à la fin de l'ISF, notamment. Il y a eu aussi la fin de la réserve parlementaire. On a eu beaucoup de débats sur le sujet. Nous n'avons pas forcément défendu la réserve parlementaire en tant que telle, mais nous avions appelé le gouvernement à l'attention aux effets de cette suppression. pression, puisque la réserve parlementaire bénéficiait à hauteur de plus de 50 millions d'euros à peu près au monde associatif. On a réussi à en sauver 25 millions qui ont été réinvestis dans le fonds de développement de la vie associative, mais au final c'est quand même 25 millions de moins. Donc oui, les associations en France sont abîmées après ces 18 premiers mois par, disons, des mesures qui ont été prises sans attention à leur situation, et en face une parole politique qui a été très longue à se faire connaître.
Quoi, alors cette parole politique, elle est justement incarnée ce soir par Gabriel Attal, je rappelle, hein, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et vous êtes notamment en charge de la vie associative. Bon, évidemment, ce diagnostic et ces inquiétudes, vous ne les découvrez pas ce soir, mais comment est-ce que, déjà, dans un premier temps, on va dire, vous y répondez? Est-ce que c'est un constat que vous partagez? C'est-à-dire, effectivement, oui, il y a de l'inquiétude, oui, il y a moins de capacités budgétaires dans les associations, notamment peut-être parce que les gens donnent moins du fait de cette inquiétude.
Moi, je suis évidemment attentif à ce qui est dit, notamment par des grandes associations qui ont vu très nettement les dons diminuer au cours de cette année. Et en même temps, je suis vigilant, et je pense effectivement qu'il faut attendre de voir la fin de l'année pour faire un bilan complet, parce que on peut attendre, en tout cas on peut espérer qu'il y ait un effet report et que des personnes qui déduisaient via l'ISF des dons donnent davantage en déduisant via l'impôt sur le revenu. On sait que 3 donateurs sur 4 qui déduisaient de leur ISF donnaient également et déduisaient sur leur impôt sur le revenu.
Donc on peut espérer. Ça, on pourra le savoir quand? D'année prochaine?
Oui, début d'année prochaine, on pourra faire le point. Je rappelle qu'en 2017, il y avait déjà eu des inquiétudes fortes qui avaient été exprimées sur une diminution des dons, et que finalement, les derniers rapports qui sont parus ont montré qu'au global, en volume, en montant, les dons avaient très légèrement augmenté, mais en tout cas qu'ils n'avaient pas diminué. Donc il faut prendre du recul. Ce qui est certain, c'est que il y a des inquiétudes qui sont formulées par les associations, et que évidemment je les entends, le gouvernement les entend. C'est pour ça qu'on a annoncé le plan que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est pour ça que on incite et on appelle évidemment les Français qui le peuvent à donner, y compris en cette fin d'année. C'est important de rappeler ce message-là au moment des fêtes, alors que des associations, notamment dans le domaine de la solidarité, sont très mobilisées sur le terrain. C'est important de faire passer ce message, et moi c'est un message que j'ai fait passer depuis ma nomination. C'est vrai que des marges de manœuvre importantes ont été rendues à des entreprises et à des personnes qui gagnent de l'argent. Elles n'ont pas été rendues pour rien, ces marges de manœuvre. Il y avait des objectifs clairs politiques qui ont été affirmés, l'objectif de investir davantage dans l'économie productive, dans le capital de nos PME, TPE pour créer de l'emploi. Et puis évidemment s'engager aussi pour soutenir le tissu associatif. C'est ce que j'ai rappelé quand j'ai présenté la feuille de route, en appelant à ce qu'on développe davantage la philanthropie à la française, à ce que on ait des initiatives comme le Giving Pledge aux États-Unis de Bill Gates et Warren Buffett. Et déjà, il y a quelques jours, un certain nombre de grands patrons ont annoncé une initiative, notamment lancée par Serge Weinberg et Denis Duverne, donc le président d'AXA, pour donner 10% de leurs revenus aux associations. Ils ont été suivis par un certain nombre de personnes. Donc on voit qu'il y a des initiatives qui sont lancées. Moi, ce que je veux, c'est les valoriser, les soutenir, et surtout appeler les Français qui le peuvent, parce que tout le monde évidemment n'a pas les moyens de donner, à le faire.
Alors justement, sur cette question du Giving Pledge, parce que c'est vrai que la fiscalité, c'est un des outils qui est extrêmement important aujourd'hui pour financer les associations. Peut-être d'ailleurs, considérez-vous que c'est un outil peut-être trop important, dans la mesure où quand on change les règles de la fiscalité, ça fragilise aussi pour un temps le financement des associations. Mais le Giving Pledge, donc Bill Gates, George Soros qui décident de léguer l'essentiel de leur patrimoine, de leur fortune à des œuvres, à des associations, plutôt qu'à leur descendance. Donc ça, si on importait cette tradition là, on aurait une forme de philanthropie à la française, comme vous le disiez, Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique Fayet et Philippe Jachon, de cette piste-là, c'est-à-dire de permettre aux grosses fortunes de léguer beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui?
Alors moi, pour tout dire, ce modèle américain ne me fait pas rêver du tout, parce qu'il est basé sur une augmentation de plus en plus grande des inégalités. Et donc des inégalités entre des très riches et puis des très pauvres. Alors après, que les très riches puissent redonner une partie à leur bon cœur, voilà, c'est une idée sympathique, mais qui n'est pas fondée sur quelque chose de juste. Nous, ce pourquoi nous battons, c'est un monde juste et fraternel. Donc un monde juste, ça, c'est un monde dans lequel les richesses sont mieux réparties dès le départ et où eh bien il n'y a plus de personnes qui sont qui peuvent même pas finir le mois, qui sont à la rue, voilà.
Est-ce donc que je du pense coup, que ce vous diriez que le modèle qui était celui de l'impôt sur la fortune vous paraissait davantage juste parce qu'il organisait peut-être une meilleure redistribution?
Moi, je vais pas défendre à tout prix l'impôt sur la fortune. Si l'argent qui n'a pas été payé en impôt s'est réinvesti dans l'économie pour créer des emplois, c'est une bonne chose. Mais il faudra l'évaluer. Pour l'instant, on n'en sait rien. Justement, l'ennui, c'est qu'on n'en sait rien. Et l'hypothèse qu'émet Gabriel Attal, que les gens vont reporter ce qu'ils payaient au fond en impôt sur la fortune, qu'ils vont quand même le donner au Secours catholique, pour l'instant, elle ne se vérifie pas. Voilà. Donc tout ça, ce sont des hypothèses, il faudra évaluer. Je pense que l'ISF n'a pas été remplacé par quelque chose d'équivalent. Donc là, on a un trou noir pour les associations pendant 2 ou 3 ans, le temps de revenir un peu à autre chose, une autre forme d'équilibre. Mais il y a un trou noir de 2 ou 3 ans qui va être très délicat pour les toutes petites associations, encore une fois.
Philippe Jachon.
Oui, peut-être quelques éléments de réflexion là-dessus. D'abord, effectivement, il y a un sujet autour de la finalement du modèle de redistribution des richesses dans le pays hein, qu'on souhaite imaginer et qu'on voit progressivement se mettre en place. Veut-on d'un système effectivement à l'américaine où finalement il y a un retrait des modalités de redistribution traditionnelles par la fiscalité, par l'action publique et un appel à la générosité effectivement des plus riches. Moi je fais référence à ce que disait Stéphane Hessel il y a quelques années. Il disait en 1945 nous étions moins riches mais on redistribuait plus. Aujourd'hui comment se fait-il en étant nous sommes plus riches mais on redistribue moins. Donc j'invite les uns et les autres à réfléchir effectivement sur cette tendance. Nous ce qu'on a proposé au gouvernement, à Gabriel Attal, c'est le par rapport à cette idée de développer la philanthropie, une philanthropie à la française, en tout cas de mobiliser des moyens privés complémentaires, le mécénat, etc. Tout ça est positif. Nous, ce que nous proposons, c'est que ça soit intégré dans une politique publique de soutien à l'initiative. C'est-à-dire que ça soit fléché vers. On a évoqué le fonds de développement de la vie associative. Nous avions proposé autour de 4 grands investissements publics, on puisse organiser les choses pour maintenir une capacité de pilotage public de cette politique-là. Je vais y revenir, mais le premier point, c'est le développement de la vie associative, donc un fonds qui existe aujourd'hui, qui est doté de 25 millions d'euros pour justement soutenir la vie associative locale dans les territoires, les petites associations, faire de ce fonds-là un fonds structurel de développement et de renforcement des associations, avec un investissement public renforcé.
Et quand vous dites maintenir le pilotage public, ça veut dire que vous considérez qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une forme de désengagement
C'est-à-dire que si on veut, si vous voulez, le mécénat ou la philanthropie ou la générosité des très riches, elle n'ira pas... si on considère qu'elle va se substituer de fait à une baisse des financements publics, ça ne marchera pas comme ça. Ça ira vers quelques associations qui ont la capacité d'attirer ces financements, mais pas sur toutes les associations.
Alors justement, je reviens vers vous. Promis, Philippe Jachon, voudrais juste que vous fassiez pas des interventions trop longues tous les trois, sinon ça va passer très très vite, vous allez voir. Mais je reviens vers vous, c'est promis. Je voudrais quand même avoir l'avis de Gabriel Attal à la fois. Est-ce que vous assumez le fait qu'il y a aujourd'hui un désengagement de l'État et que l'idée c'est de faire porter la solidarité davantage vers les plus riches et vers les entreprises? Et comment est-ce qu'on peut faire, si c'est le cas, pour que l'État contrôle quand même les flux pour qu'ils aillent bien vers les associations qui en ont besoin?
Alors, il n'y a pas de désengagement de l'État. Et ce que je veux rappeler, c'est que derrière un don...
C'est une nouvelle forme d'engagement, alors.
Derrière un don des entreprises, d'une entreprise ou un don d'une personne fortunée, il y a un don de l'État par définition, puisque quand on dit défiscalisation, il y a quand même une dépense de l'État fiscale. C'est 2,7 milliards d'euros chaque année qui sont dépensés par l'État, c'est-à-dire de manque à gagner en impôts par l'État, liés aux dons qui ont été faits par des entreprises ou des particuliers. Ça, il faut le rappeler quand même. Parce que c'est vrai que, y compris pour des associations, elles reçoivent des dons de particuliers. On se rappelle pas toujours que derrière ça il y a une dépense fiscale de l'État.
Et puis il faut rappeler la déduction fiscale, c'est 66%
pour les particuliers. Ce que je veux rappeler aussi quand même, c'est que la politique de subvention publique de l'État envers le secteur associatif, c'est 4,5 milliards d'euros. Donc c'est vrai que On parle beaucoup de la question de la réserve parlementaire qui était de 50 millions d'euros et qui est passée pour le Fonds de développement de la vie associative à 25 millions d'euros.
Ouais, c'est-à-dire les parlementaires, les députés, les sénateurs qui avaient de l'argent qu'ils pouvaient redistribuer comme
un
pour
peu comme ils voulaient. Hein, voilà.
Ça a été supprimé.
Une transparence qui est arrivée un peu tardivement et voilà. Mais c'est 25 millions sur 4 milliards 500 millions d'euros. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes ordres de grandeur. Ce qui est certain, c'est que, et là je rejoins Philippe Jachan, c'est avec le Fonds de développement de la vie associative, qui est donc abondé de 25 millions d'euros, qui a pour vocation de soutenir des petites associations composées exclusivement ou quasi exclusivement de bénévoles, avec des petites subventions dans les territoires. On a le souhait, moi j'ai le souhait, d'en faire un fonds central pour soutenir des petites associations sur le terrain et de l'ouvrir, c'est ce que j'ai annoncé, y compris au financement privé. C'est-à-dire que les entreprises puissent venir abonder ce fonds en faisant un don à ce fonds. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, qui disent « Nous, on aimerait pouvoir aussi soutenir des petites associations sur le territoire. » Le problème, c'est que, un, on ne les connaît pas toujours. On ne sait pas lesquelles ont l'impact social le plus fort. Deux, on n'est pas toujours sûr de où va l'argent, parce qu'il y a un sujet aussi de certification des comptes et que pour des petites associations qui ne certifient pas leurs comptes, certaines entreprises disent nous, on veut être sûr que 1 euro donné égale 1 euro utile, ce qui peut s'entendre. Et donc nous, ce qu'on propose avec le Fonds de développement de la vie associative, c'est de dire que l'État agit comme un tiers de confiance entre des entreprises privées qui souhaitent s'engager financièrement et des petites associations, puisque par définition, nous, les petites associations, on les suit avec nos réseaux dans les territoires et on est en capacité de dire quels sont les projets qui sont les plus positifs et qu'on souhaite soutenir. Alors, sur la question des moyens, moi, ce que je veux dire aussi...
Brièvement, juste aussi là, toujours pareil, hein, pour qu'on puisse bien faire circuler la parole.
Tout à l'heure, vous disiez que le plan de développement de la vie associative pouvait se résumer en disant « faire mieux avec moins ». Mais c'est pas le cas.
Je me doutais que vous ne seriez pas d'accord.
Oui, hein. Mais c'est faire mieux parce qu'on peut faire mieux. Et parce que c'est vrai que l'État...
Donc la première partie de ma proposition est bonne.
Oui, la première partie est bonne. Ça, on se rejoint là-dessus.
Et avec moins,
non, pas avec moins. Faire mieux avec mieux. C'est ça que je veux dire.
Faire mieux avec mieux.
Oui, oula, c'est subtil. Non, mais parce que c'est vrai que le soutien de l'État, on peut le résumer aux subventions et aux dépenses fiscales. Mais le soutien de l'État, il doit aussi venir pour appuyer les associations qui grandissent, qui se modernisent, qui se regroupent. Quand on dit mutualiser, ce n'est pas forcément négatif. Au contraire, ça permet à des associations de grandir. Vous avez aujourd'hui beaucoup de petites associations qui aimeraient pouvoir recruter leurs premiers salariés. Elles ne peuvent pas le faire individuellement. En revanche, si elles se mettent avec deux ou trois autres associations dans leur territoire, qu'elles font un groupement d'employeurs, elles peuvent recruter leurs premiers salariés. Et c'est là où nous, les pouvoirs publics, on doit arriver pour les soutenir. Donc ce qu'on a annoncé, c'est qu'on va créer 4000 postes, qu'on appelle des postes FONGEP. Concrètement, c'est des postes qui sont aidés à hauteur de 7000 euros par an, justement pour les flécher sur ces petites associations qui se regrouperont pour recruter leurs premiers salariés. On va verser 7000 euros par an pour le salaire de ce salarié.
Alors, ensuite... Philippe Jachan et Véronique Fayet veulent intervenir. Philippe Jachan.
Oui. Le peut-être pour finir... Et ça va permettre de rebondir sur ce que disait Gabriel Attal. Le premier élément, alors sur le FDVA, effectivement, nous sommes favorables hein, à ce que, justement, pour éviter une dispersion ou une mobilisation de fonds privés qui ne bénéficieraient pas au développement de la vie associative aussi dans les territoires, l'idée de faire converger sur un fonds de développement des moyens et de rassembler et de le doter d'une gouvernance, par exemple, partagée, peut être une idée intéressante. En tout cas, nous, on est prêt à travailler sur ce modèle-là. Le deuxième élément, c'est que c'est pas que la question du financement. Nous avons aussi proposé qu'il y ait en gros quatre grands investissements publics qui soient faits pour le développement de l'associative. Celui du fonds de développement, donc du FDVA, pour le financement. Celui de l'accompagnement, c'est-à-dire aujourd'hui investir dans une grande politique d'accompagnement des associations qui sont confrontées à de nombreuses tracasseries quotidiennes qui s'accroissent, notamment pour les bénévoles et les dirigeants bénévoles, qui sont confrontés à des enjeux de transformation, à des enjeux de développement de leur de d'hybridation de leur modèle économique, tout ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut savoir. Mais elles ont besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de moyens et les dispositifs par rapport à ça sont très dispersés.
Le troisième
champ d'investissement public, c'est la formation et l'accompagnement des bénévoles. Là aussi, on a ces 8 millions d'euros aujourd'hui qui sont investis sur la formation des bénévoles par l'État. Ça bénéficie à 1,5% des bénévoles en France. Ils sont 22 millions en France à être bénévoles. Et le quatrième, c'est...
Alors, j'ai dit 13 millions moi tout à l'heure.
Non, les derniers chiffres, c'est 22 millions qui viennent de sortir. 22 millions de bénévoles. Le dernier, c'est la question de l'évaluation et de la qualité. C'est-à-dire, nous sommes pour une un subventionnement, mais un subventionnement aussi qualitatif, c'est-à-dire qu'on s'engage sur un contrat de qualité, d'une certaine façon, sur l'évaluation. On a intérêt aussi dans le monde associatif à démontrer l'utilité sociale et ce que produit le monde associatif. Parce que je veux finir par ça.
Si je résume, non mais Philippe, je vous assure, parce que sinon on ne va pas entendre Véronique Fayard. En tout cas, on peut dire que vous n'êtes pas contre le fait de changer de modèle, en tout cas de faire évoluer le modèle, mais il faut quand même que ça soit accompagné et pas uniquement accompagné financièrement, même si évidemment c'est important.
Nous, ça ne peut pas se faire un investissement public zéro.
Bien sûr. Voilà. Véronique Fayard.
Oui, moi je voudrais revenir peut-être au niveau des territoires, parce que là, j'ai toujours peur quand on parle trop de quelque chose vu du point de vue de l'État, des grandes usines à gaz. Dans une vie antérieure, j'ai été élue et élue girondine en plus. Voilà. Et donc, effectivement, j'avais proposé au maire de Bordeaux de créer un fonds de dotation qui existe toujours, qui s'appelle Bordeaux Mécène Solidaire. Et effectivement, c'était extrêmement intéressant puisque des entreprises, quelquefois des petites entreprises assez modestes, locales, voulaient financer des projets locaux. Et donc ça, c'est une bonne solution. C'est pas une usine à gaz, ça mouille les entreprises du territoire. C'est vraiment une alchimie entre des élus, des associations, des entreprises, et c'est très très intéressant. Parce qu'en fait, il faut bien savoir que les petites entreprises locales, elles ne s'adressent pas à l'État la plupart du temps quand elles ont besoin de vivre, sauf pour faire un emploi aidé. Mais là, il y en a de moins en moins. Ce sont les collectivités locales qui sont les interlocuteurs. C'est la mairie, c'est le département, c'est éventuellement la région. C'est à ce niveau-là que ça se passe pour les toutes petites associations. Donc il faut vraiment que cette politique associative, elle soit soutenue au niveau territorial, parce que c'est là qu'il y a de l'intelligence collective et c'est là qu'il y a un vrai partenariat qui se crée. Moi, je l'ai vécu, j'étais élue et je travaillais sans arrêt avec les associations et quelquefois des micro-associations qui n'avaient pas toujours envie de se regrouper parce que chacune a son originalité, chacune a son projet.
Mais c'est la force du mouvement associatif. Si ces entreprises locales, elles ont du mal jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, à financer des associations locales, c'est parce que c'est compliqué, c'est parce qu'on ne peut pas flécher directement ce soutien, ou bien c'est aussi parce que peut-être la fiscalité leur est moins favorable qu'aux grandes entreprises. Il vaut mieux peut-être.
Mais la fiscalité n'est pas le moteur principal. Quand une entreprise a envie de soutenir une association locale, c'est parce qu'elle a eu un coup de foudre, un coup de cœur, qu'elle a vu des gens qui se battaient, qu'elle a vu des gens ultra convaincus pour un projet de culture, pour un projet de solidarité. Et c'est ça qui déclenche. Et les chefs d'entreprise nous disent toujours, mais bon, c'est l'avantage fiscal. Ok, on va le prendre. Mais c'est pas ça le déclencheur. Et ce qui est intéressant dans une communauté locale autour d'un fonds de dotation ou d'autres choses au niveau d'un territoire, c'est en fait la reconnaissance mutuelle qu'il y a, parce qu'une petite association, elle souffre d'un problème de non-reconnaissance, elle n'est pas sur les écrans radars, elle ne peut pas émarger dans les grands budgets de l'État parce qu'elle ne peut pas répondre à des appels d'offres, voilà. Mais être reconnue par une entreprise locale, et donc c'est des mariages d'amour qu'on fait au niveau local entre des associations, des entreprises, et c'est ça qui marche. Et la fiscalité, c'est un petit plus, mais c'est pas le déclencheur.
Mais pour qu'on comprenne bien votre approche, Gabriel Attal, par rapport justement à ces petites associations qui ont du mal à bénéficier, notamment de ce mécénat d'entreprise, est-ce que vous dites qu'il faut absolument justement favoriser l'éclosion de ce genre d'associations, ou bien est-ce que vous êtes plutôt dans la démarche, comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, de mutualiser les moyens et de regrouper. On sait par exemple qu'au niveau local, s'agissant des collectivités, on est dans des phases de regroupement, on regroupe les communes, par exemple. Est-ce que l'idée, c'est aussi de regrouper les associations pour qu'elles soient plus fortes et plus professionnelles, par exemple ?
Le regroupement, c'est pas un enjeu de rationalisation du nombre d'associations, ça n'aurait aucun sens. Moi, je me réjouis qu'il y ait des associations qui se créent tous les jours, il y en a eu 70
000. Sauf
parce
qu'elles aient plus de moyens, donc plus de moyens d'avoir des salariés et qu'elles soient plus professionnelles, peut-être.
Le regroupement, c'est vrai, et là, je vous rejoins totalement. C'est que c'est vrai qu'il y a aussi un sujet parfois culturel pour ces associations en France, pour les petites associations qui ont beaucoup de mal à penser le regroupement, soit parce que elles n'imaginent pas, elles voient pas la cohérence à se rapprocher d'une association qui intervient pas du tout sur la même thématique que la leur, soit parce que parfois, y compris avec des associations qui interviennent sur le même champ d'action, il y a parfois une logique un peu de concurrence. Ouais. Voilà. Mais l'enjeu du regroupement, c'est pas de dire qu'on va les fusionner, qu'on va leur demander de s'aspirer l'une l'autre, c'est de dire qu'ensemble, elles peuvent éventuellement recruter un salarié qu'elles pourraient pas recruter individuellement, un salarié qui va leur permettre de faire pour toutes, la recherche de subventions, de la communication, de la gestion de projets, qui sont des missions qui peuvent être faites dans différentes associations par-delà la thématique. Mais ce qui est certain, et moi je vous rejoins totalement aussi, c'est qu'il y a un vrai sens à développer la solidarité au niveau local avec les entreprises et les PME, TPE dans les territoires. D'abord parce qu'elles sont demandeuses, parce qu'effectivement elles souhaitent s'engager, elles ont des coups de foudre effectivement pour des projets. Ensuite parce que, y compris pour elles, en termes de stratégie commerciale, c'est toujours positif de montrer aux consommateurs qu'elles s'engagent pour des projets très concrets sur le territoire où vivent ces consommateurs, et qu'on sait qu'on est dans une bascule sociétale où aujourd'hui les consommateurs de plus en plus regardent quels sont les engagements des entreprises avant de consommer, parce qu'on a cette attente-là.
Vous parlez de solidarité, Gabriel Attal. Il y a eu une proposition de loi qui a été déposée, c'était au mois d'octobre, et votée d'ailleurs, me semble-t-il, par une députée MoDem, Sarah El Haïry, oui, avec notamment la possibilité pour les associations de se prêter de l'argent entre elles à partir du moment où elles sont soit dans le même réseau, soit dans le même secteur. Est-ce que ça fait partie justement des choses que vous souhaitez développer?
Oui, bien sûr, c'est une proposition de loi portée par Sarah El Haïry, qui est députée de Loire-Atlantique, qui est très engagée sur la question associative, qui n'a pas encore été adoptée malheureusement, puisqu'on n'a pas eu le temps de terminer l'examen, mais qui reprendra et qui sera adoptée fin janvier, avec des mesures très concrètes comme celles que vous avez évoquées pour la trésorerie des associations. Je voulais simplement, pour terminer sur la question fiscale que vous posiez tout à l'heure, c'est vrai que la fiscalité n'est pas toujours, et heureusement, n'est pas le seul moteur pour le don des entreprises. En revanche, on était jusqu'à présent dans une situation où les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, avaient moins intérêt fiscalement à donner que les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que la règle, c'est de dire, vous pouvez déduire de vos impôts jusqu'à 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires. On voit que pour une très grande entreprise, ça a du sens de dire 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Pour une PME, ça a moins de sens. C'est-à-dire qu'une PME qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, elle peut déduire jusqu'à 500 euros maximum sur l'année pour son mécénat. Ce qui, objectivement, donc moi, ce que j'ai annoncé.
Et qu'est-ce qui fait que désormais, alors justement, ces petites entreprises auront davantage d'intérêt sur le plan fiscal à donner aux associations?
Alors, c'est ce que j'ai annoncé dans le cadre du plan, c'est qu'à partir du 1er janvier, les petites et moyennes entreprises pourront déduire non pas jusqu'à 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires, ce qui n'a aucun sens, mais jusqu'à 10 000 euros. On passe à une déduction en volume, et pour le coup, ça peut booster aussi les incitations pour les petites et moyennes entreprises à donner sur leur territoire.
Oui, Véronique Fayet, je vous vois acquiescer. Ce sont des pistes qui vous semblent intéressantes.
Oui, parce que même je disais que la fiscalité n'est pas le moteur essentiel, mais ça peut être important et ça peut jouer. Je voudrais aussi peut-être passer un... Je me permets d'aborder un autre sujet, parce que je voudrais bien qu'on ait le temps de revenir au Secours catholique et dire que nous, ce qui fait notre force, évidemment, ce sont nos donateurs, qui encore une fois, beaucoup sont des donateurs modestes, beaucoup n'ont pas accès à la déduction fiscale, voilà, mais ils sont quand même généreux. Et ce qui fait notre force aussi, ce sont nos bénévoles.
Bah, j'allais justement y venir, vous voyez.
Ah, bah, voyez,
les
j'anticipe.
Grands esprits, les grands esprits. Bon, alors, non, mais continuez, justement, parce que c'est vrai que ça fait partie justement du plan d'action qui a été
dans
présenté.
Dans nos bénévoles, nous, on a cette particularité d'avoir des bénévoles d'origine modeste. D'abord parce que les personnes qui sont en précarité, qui viennent nous voir, c'est quand même quasiment 1,5 million de personnes. Beaucoup d'entre elles, très vite, nous disent... Mais je veux me sentir utile, je veux participer. Donc très vite, elles deviennent actrices. Alors je sais pas si on les appelle bénévoles ou pas, mais enfin elles deviennent acteurs de la vie de l'association, elles s'engagent. Bon, pour nous, elles sont considérées comme des bénévoles. Donc c'est des bénévoles pauvres et modestes, des bénévoles jeunes aussi. On a toute une branche maintenant qui s'appelle les Young Caritas, donc les jeunes Caritas, et donc qui sont des jeunes de toutes conditions sociales, beaucoup dans les dom-toms, ça marche très très bien dans les dom-toms, et donc ils sont quand même maintenant plusieurs milliers de jeunes très engagés. Donc ça, c'est à souligner, parce qu'on dit d'habitude qu'il n'y a pas de jeunes, mais quand on leur fait une place, quand on leur fait un petit truc sur mesure, un peu informel, ils sont
donc
très présents.
Donc il n'y a pas de crise de bénévolat. D'ailleurs, tout à l'heure, alors j'évoquais ce chiffre de 13 millions de bénévoles, vous dites, Philippe Jachan, 22 millions, moi j'avais les chiffres, je crois que c'est 2016. Comment on passe en deux ans?
C'est les chiffres de 2013.
Alors moi, c'est pas ce que j'ai vu. Moi, c'était 2016. Mais enfin, en tout cas, ça me semble quand même un écart extrêmement important. Ça veut dire qu'on compte sans doute pas de la même manière les bénévoles pour passer de 13 à 22 millions. Enfin, sinon, je vois pas comment ce serait possible. Qu'est-ce que vous entendez par 22 millions de bénévoles aujourd'hui?
Ben, c'est un Français sur deux, pratiquement, qui est aujourd'hui adhérent d'une association, et un Français sur trois qui est actif. Donc bénévole actif qui donne de son temps plus que simplement le fait d'adhérer.
Ça veut dire qu'on peut pas parler aujourd'hui d'une crise du bénévolat, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de bénévoles.
Oui.
Mais du coup, est-ce qu'il y a besoin d'encourager le bénévolat? Enfin, je vais poser la question après à Gabriel Attal, mais comme ça fait partie de son plan, pourquoi encourager le bénévolat quand il y en a déjà autant?
Philippe Jachon.
La question, c'est, je pense qu'il est toujours bon d'encourager le bénévolat. La réalité, c'est que les Français s'engagent et n'attendent personne pour s'engager. Sans faire référence à l'actualité, mais d'une certaine manière, une certaine façon aussi de voir la crise sociale que traverse le pays, ou appelée celle des Gilets jaunes, c'est aussi le besoin, l'associativité, la demande d'associativité, de lien social dans la société française, et de s'engager et de participer à la vie publique, et de participer à la décision publique, et de participer à l'économie, à ce qui fait le pays. Donc ça c'est je pense qu'il y a une soif très forte des citoyens aujourd'hui, et c'est quelque chose de très positif.
Donc, est-ce que cette soif, on peut l'étancher facilement aujourd'hui?
La question aujourd'hui, il y a deux questions. C'est que pour nous, je dis, les Français n'attendent pas l'État pour s'engager, mais pour nous, il y a une responsabilité de l'État à permettre, à faciliter, à développer, à accompagner cet engagement. C'est tout ce que nous avons proposé sur notamment la formation, l'accompagnement des bénévoles, parce que il y a des responsabilités qui sont prises, et la complexité aujourd'hui, notamment de l'engagement associatif, ou de ce qui lui est demandé, fait que les bénévoles qui s'engagent, mais plus forcément sur des fonctions à responsabilité. On a pour le coup là plus de mal à renouveler. Il y a une responsabilité du côté des associations, à savoir faire place à ces soifs d'engagement qui se renouvellent, qui se transforment, qui sont autour de causes. C'est un chantier très important. La question de l'engagement, encore une fois, ne se décrète pas, elle est là. Je pense qu'il faut au contraire continuer à la nourrir. On a fait des propositions en ce sens, mais elle oblige, de mon point de vue, les pouvoirs publics d'une part, elle oblige évidemment le secteur associatif d'autre part.
Eh ben, on va voir justement comment les pouvoirs publics, et en l'occurrence Gabriel Attal et le gouvernement, ont pris en compte ces propositions. Je vous cite Gabriel Attal au moment de la présentation du plan d'action. Il persiste encore trop de freins à l'engagement, des freins culturels, sociaux, économiques, géographiques. Je repose ma question finalement. Comment on peut parler de frein alors qu'on a 22 millions de bénévoles en France?
Oui, ce qui est certain, et je rejoins Philippe Jachon, c'est que le bénévolat, le nombre de bénévoles a augmenté, mais la forme du bénévolat a changé. C'est ce qu'une étude, par exemple, de la Fonda, qui a été publiée il y a quelques semaines, montre.
La Fonda, c'est un think tank qui travaille sur les questions des associations.
On a de plus en plus de bénévoles occasionnels, c'est-à-dire qui sont moins dans un bénévolat régulier. Et surtout, et là, ça vient d'être dit, on a de moins en moins de bénévoles qui sont prêts à prendre des responsabilités bénévoles dans les associations. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les associations, parce qu'elles ont besoin de dirigeants, elles ont besoin de responsables pour les gérer. Donc, il y a un vrai sujet d'accompagner les bénévoles vers la prise de responsabilité. Et Philippe Jachon parlait tout à l'heure de la question de la formation des bénévoles. C'est vrai qu'il y a un fonds qui existe aujourd'hui, financé par l'État, de 8 millions d'euros, que ce n'est pas suffisant. Donc j'ai annoncé que l'an prochain, il augmenterait de 25%, donc pour pouvoir former plus de bénévoles. Il y a un enjeu sur la question de l'engagement, à mieux le valoriser. Mieux valoriser les compétences qu'on acquiert via l'engagement. Et c'est là aussi, ça fait partie du plan. L'idée, c'est de dire que quand vous vous engagez bénévolement, vous développez des compétences. Vous développez des compétences en matière de gestion de projet, en matière de communication, et que ces compétences, elles doivent pouvoir être valorisées, y compris dans le cadre d'une insertion professionnelle. C'est pas un gros mot de dire que s'engager, c'est une démarche volontaire, bénévole, qu'on le fait pas pour en retirer forcément quelque chose de matériel, mais qu'on peut en retirer une valorisation qui permet d'être utilisée ailleurs dans sa vie, et notamment dans le milieu professionnel. Donc concrètement, on va ouvrir et créer des certifications gratuites qui seront accessibles à tous les bénévoles en France, qui seront certifiés par l'État sur un certain nombre de thématiques, qui pourront être passées notamment via le numérique. Aujourd'hui, avec les MOOC, on peut faire pas mal de choses, comme on dit. Donc voilà, on va ouvrir ça pour que ça soit davantage valorisé.
On développe des compétences, Gabriel Attal, et on fait aussi profiter de ces compétences les associations. Je voudrais quand même qu'on dise un mot du mécénat de compétences. Alors, il faut rappeler ce que c'est. C'est de permettre à des salariés, donc qui ont un travail, de consacrer une partie de leur temps de travail pour des associations. Ce que je trouve intéressant, juste d'un mot avant de redonner la parole à Véronique Fayet, c'est que vous souhaitez, alors ça se fait dans le privé, vous souhaitez développer le mécénat de compétences dans les administrations publiques. Oui, absolument. Il y a aujourd'hui du mécénat de compétences qui s'est beaucoup développé dans le privé et c'est heureux parce que c'est bon pour les associations, c'est bon aussi pour les salariés parce qu'en termes de bien-être au travail, en termes d'équilibre, c'est quelque chose qui est très positif. Et je trouve qu'il n'y a pas de raison pour expliquer que ça n'existe pas dans les administrations publiques. Les agents dans les administrations publiques, ils travaillent comme des salariés du secteur privé, ils ont des compétences et des choses à apporter aux associations comme les autres et en termes de bien-être au travail pour eux aussi, ça serait positif. Donc moi j'ai lancé ce travail qui va pour se poursuivre dans les mois qui viennent, pour voir comment est-ce qu'on peut ouvrir le mécénat de compétences aux administrations et inciter à ce qu'il soit développé dans nos administrations.
Véronique Fayet.
Oui, alors moi je voudrais témoigner de ce qu'on vit au Secours catholique, parce qu'effectivement le bénévolat, on le connaît, et on voit que c'est un lieu de reconnaissance, de fraternité absolument exceptionnelle. Les gens se sentent utiles, et justement, on a de plus en plus de gens qui nous rejoignent comme bénévoles, qui sont demandeurs d'emploi, qui sont dans des passes difficiles. Ça leur redonne beaucoup d'énergie, et ils témoignent très souvent, ils disent « mais c'est ma famille, quoi ». Voilà. Donc on sent que ça redonne du sens, et ça redonne une utilité sociale qui est vraiment une demande très forte. Après, moi, j'ai envie de faire une proposition très, très honnête à Gabriel Attal et de lui demander de nous soutenir dans les personnes que l'on accompagne. Il y a beaucoup qui sont des chômeurs de longue durée, et la plupart d'entre eux, d'ailleurs. Et il n'y en a que 1% qui ont accès à la qualification professionnelle. Donc, il y a un vrai souci. Donc, on est en train de travailler avec une députée girondine, justement, Catherine Fabre, un projet voilà, qui pourrait vous intéresser et pour lequel vous pourriez nous soutenir. On propose une expérimentation sur 3 de nos départements avec des délégations du Secours catholique où on donnerait une activité à des chômeurs de longue durée pour leur permettre de créditer le compte engagement citoyen. Vous en parlez dans votre projet. Mmh. Le compte engagement citoyen, c'est quelque chose qu'on a tous. et donc, il nous permet de gagner des heures de formation. Et pour l'instant, ce n'est ouvert qu'aux responsables des associations, ceux qui sont présidents ou vice-présidents. Et nous, ça répond pas à notre besoin parce qu'on a des gens qui sont engagés bénévolement sur le terrain, qui sont ni président de rien, ni chef de rien du tout. Mais qui acquièrent des compétences, comme ça a été dit à l'instant, et qui ont besoin d'une formation, parce qu'ils ont une formation obsolète, ancienne, etc., et qui n'ont absolument pas accès à la qualification professionnelle. Donc, on pourrait faire cette expérimentation sur quelques départements, et en donnant accès à la formation, grâce au compte d'engagement citoyen, à des chômeurs de longue durée qui s'engageraient au Secours catholique dans des délégations. Et nous, on s'engagerait évidemment à l'accompagnement. Tout ça ayant pour objectif une démarche vers l'emploi, bien évidemment.
Et bien, puisqu'on parle d'engagement, à quoi vous engagez-vous sur ce sujet?
Moi, je m'engage à regarder avec beaucoup d'attention. Il faudra qu'on se revoie pour en parler. Moi, je suis favorable, par principe, à tout ce qui permet d'expérimenter des solutions nouvelles dans les territoires. Moi, je suis très ouvert à ces questions-là. Donc, si on peut regarder ce qu'on peut faire pour renforcer le compte d'engagement citoyen, évidemment. On l'étend aussi à partir de l'an prochain, le compte d'engagement citoyen, à de nouveaux bénévoles, notamment les bénévoles qui encadrent des non-bénévoles. Je pense notamment au secteur du sport et du scoutisme, qui jusqu'à présent ne bénéficiaient pas du compte d'engagement citoyen, qui est un dispositif vraiment, vraiment formidable. À partir de 200 heures par an de bénévolat, vous pouvez en bénéficier de points qui vous permettent d'avoir une formation professionnelle ou des formations type permis de conduire qui peuvent être très utiles pour ceux qui s'engagent. Donc évidemment, c'est très positif.
Philippe Jachan, vous allez me montrer que vous êtes capable de conclure en moins d'une minute.
Eh bien, écoutez, très bien. En moins d'une minute, il me semble important aujourd'hui, puisqu'on a parlé du plan, je vais juste signaler un chiffre. L'aide aux entreprises dans le projet de loi de finances 2019, c'est 20 milliards d'euros sur la table. La vie associative, je crois qu'on a essayé de le démontrer là, c'est du lien social en France qui est créé tous les jours, c'est de la vitalité démocratique de la société française, c'est une économie de proximité, c'est un lieu d'innovation sociale au quotidien, ce sont des services rendus aux citoyens, c'est un lieu d'abord d'émancipation des citoyens. Nous plaidons et nous continuons de plaider pour dire la France se fait du bien quand elle soutient sa vitalité associative. Donc il faut investir, il faut en faire une politique centrale et non plus une politique marginale dans les politiques publiques, parce que la vie associative, c'est ce qui tient la société française dans beaucoup de territoires et il faut la comprendre comme ça aujourd'hui.
Et pour se faire du bien quand on soutient le tissu associatif et notamment le Secours catholique Caritas France, je renvoie alors une initiative que vous menez en ce moment, c'est la vente d'un gâteau, Véronique Fayet, qui s'appelle le fraternel. Gâteau
oui.
Marbré au chocolat, 100% des recettes reversées vont au Secours catholique. On peut le trouver notamment, j'imagine, sur le site internet du Secours catholique.
Voilà, et je remercie le chef d'Amiens qui nous a proposé cette recette et qui est un qui est notre VRP du gâteau fraternel et qui fait un travail formidable avec nous.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas à vous, Véronique Fayet, Philippe Jachan et Gabriel Attal d'avoir participé à cette discussion.